Alors, ce message, normalement, c'était un invité qui viendra la semaine prochaine, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Donc, je continue un message que j'ai commencé la semaine dernière sur la justice. Moi-même, quand le Seigneur m'a mis ce sujet à cœur, je n'avais jamais vraiment abordé à fond le domaine de la justice, parce que, voilà, je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais moi je voyais plutôt le jugement dernier comme l'effet de la justice de Dieu, que tout se passait au jugement dernier, au niveau de la justice. Et en fait, j'ai vu que non. Et dimanche dernier, j'ai dit qu'il y a 400 fois le thème de la justice qui est abordé dans la Bible, alors que Jésus a utilisé 4 fois le mot « église ». Vous voyez ? C'est pas pour faire des statistiques de comparaison, mais voilà, je veux dire, utiliser 400 fois l'élément de la justice, et pas que pour le jugement dernier, c'est quelque chose qui montre que dans la Bible, la justice a une grande importance. Et on va faire la partie 2, mais il y a aussi une partie 3, parce que j'ai pas le temps de faire en un seul message tous les thèmes qui sont abordés au niveau de la justice. Le psaume 89, verset 14, donc un de ces 400 passages sur la justice, il est dit que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Là, j'ai pris une photo, c'est pas évident de trouver une photo du trône de Dieu. Ce que j'aime bien, c'est que Dieu ne le voit pas. Il est lumière, il est gloire, il est voilà quelque chose qu'on ne peut pas représenter. Donc il est en haut, et là il y a des marches là, qui montent vers le trône. Et donc Dieu est le juge qui juge avec justice. Et devant son trône, il y a les anges, mais aussi Satan, parce que c'est un ange qui encore aujourd'hui n'est pas fermé, qui n'est pas verrouillé dans le puits, ce qui sera effectivement le cas au jugement dernier. Aujourd'hui, il est toujours présent, vivant, et devant le trône de Dieu. Dieu est un juge, et un juge qui juge avec équité, avec justice, justice et équité. On va développer un peu ce thème de la justice et de l'équité du jugement de Dieu. Le psaume 103, verset 6, dit « L'Éternel fait justice et droit à tous ceux à qui l'on fait tort ». Est-ce que quelqu'un dans la salle, on vous a fait du tort? Quelque part, levez la main pour voir si je suis tout seul. Non, il y en a d'autres à qui on a fait du tort. Ça arrive tout le temps. Ça arrive tout le temps. Et nous aussi, on fait du tort à d'autres. Il n'y a pas que les autres qui font du tort. On se fait tort les uns aux autres parce qu'on est pécheurs. Et c'est cela que le Seigneur va changer à la fin des temps. Puisque ce sera un royaume de paix, de justice et d'amour qui va succéder à un royaume aujourd'hui où il y a des torts de part et d'autre entre nous. Le psaume 37, verset 28, dit ceci, « Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses bien-aimés, ils sont gardés à jamais. » Je vais le redire parce que la parole de Dieu doit nous pénétrer dans la vérité qu'elle représente. Car l'Éternel aime la justice, et le mot amour là, c'est pas juste il aime comme ça, en anglais on dit like, voilà, je like, j'aime ça, etc. Non, il aime passionnément la justice, vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que l'Éternel, le Seigneur, il aime passionnément la justice, il aime être juste, et il n'abandonne pas ses bien-aimés. Et particulièrement quand on leur a fait du tort, il les défend. Et on va voir comment il les défend. Un des rôles importants pour gouverner un royaume, donc il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume du monde, il y a le royaume de l'ennemi aussi, qui est un gouvernement, c'est d'exercer la justice. Et Salomon, très souvent, on parle de la sagesse de Salomon, ce qui est vrai, mais en fait, elle s'incarne dans la justice. Salomon l'a compris. Salomon, c'est celui qui, donc le fils de David, qui devait régner, et il était très jeune quand il a pris le royaume, et il a compris que, enfin, il a cherché quelque chose que Dieu a approuvé. Il a cherché à exercer la justice dans son royaume de manière juste. Et donc il a compris et il a demandé à Dieu cette sagesse du discernement entre le bien et le mal. Parce que dans la justice, pour qu'un juge puisse juger dans la justice avec équité, il faut qu'il discerne le bien et le mal. Et que par ses questions, par sa manière de juger, il met en évidence parmi les jurés qui devront ensuite décider de la peine, eh bien mettre en évidence justement le côté bien et mal. Et lui, d'avoir ce discernement pour poser des questions. Parce que très souvent, ceux qui ont fait du tort, ils ne reconnaissent pas leur tort. Donc ils les dissimulent, etc. Donc il faut avoir cette sagesse, cette capacité à mettre en évidence des choses, à chercher des témoins, etc. Et Salomon l'a compris. Parce qu'il voulait rendre une justice équitable. Voyez-vous, le royaume, c'est pas juste donner des ordres, et faire ceci ou cela dans le royaume, mais c'est rendre justice. Et ça, c'est véritablement la royauté qui fait du bien, qui fait du bien. Et Jésus est quelqu'un qui est juste. Lui-même a vécu l'injustice. Il a été cloué sur la croix qui n'a rien fait. Et lui, maintenant qu'il règne sur nous, sur son royaume, sur son Église, eh bien, il règne en juste juge. Et il ne nous abandonne pas. Il nous assure cette justice. Le psaume 72 explique, effectivement, c'est un psaume de Salomon. Et dans ce psaume, Salomon dit « Ô Dieu, accorde roi, donc à lui, accorde roi de juger comme toi. » Voyez-vous, c'est-à-dire que là, on a l'identité entre la justice de Dieu, la justice du royaume au niveau des humains, qui prend comme modèle le jugement de Dieu, la façon dont Dieu juge les choses. « Accorde au roi de juger comme toi et donne au fils du roi, donc à moi, ton esprit de justice. » L'esprit de justice. Qu'il rende la justice à l'égard de ton peuple selon ce qui est juste, à l'égard de tes pauvres selon ce qui est droit. La paix descend des montagnes et la justice des collines pour tout le peuple. Allez, donc c'est vraiment, il faut changer un peu de vision de Salomon. C'est pas juste la sagesse pour la sagesse, parce que les Français particulièrement, on est héritiers des Grecs. Des Grecs, d'ailleurs, un grand écrivain du 19e, Michelet, a dit qu'Athènes a déménagé à Paris. Et Paris, partout, c'est la sagesse. Mais d'ailleurs, Minerve et tout ça, c'est la déesse de la sagesse. Elle est partout sur les frontons de nos monuments. Mais en fait, c'est pas la sagesse pour la sagesse. C'est la sagesse de discerner le bien et le mal pour rendre justice. Et ça, c'était le souci de Salomon. C'était un grand roi. Après, il a dévié par l'idolâtrie qui nous attend tous, et il faut faire très attention à l'idolâtrie. Alors Dieu est un juste juge qui rend justice en tout temps. Ce n'est pas juste à la fin des temps qu'il rend justice. Il le rend tous les jours. Il le rend à chaque instant. Et il est là pour nous, en faveur de son peuple, en faveur de chacun de nous. Et le maillet, ça s'appelle un gavel, je ne sais pas d'où vient le mot gavel, mais bon, c'est le terme officiel utilisé, un maillet, où il prononce le verdict, coupable ou pas coupable. C'est le juge qui décide en fonction justement de tout ce qu'il a entendu sur le cas qu'on lui propose. Et donc il faut faire confiance à Dieu, fais confiance au juste juge, le Dieu tout-puissant, et il te rendra justice de toutes les injustices que tu as subies, et tu donneras gloire à son grand nom. L'idée, c'est que toute la gloire revienne toujours à Dieu. Et si il se passe quoi que ce soit, eh bien, c'est le Seigneur. Donc, il faut s'adresser à lui, s'attendre à lui, et lui rendre gloire. Parce que tout vient de lui, tout retourne à lui, et tout est origine de sa part, y compris la justice, et particulièrement la justice, lorsque nous avons été accusés à tort, lorsque nous avons subi des torts. La justice est à la base de son trône. Vous voyez, donc la base du trône. Et si la justice n'est pas accomplie, si Dieu ne rend pas justice, eh bien, son trône, il est instable. Vous savez, un peu comme une chaise qui est sur quatre pattes, mais il y en a une qui est plus courte que l'autre. C'est instable. Voilà. Non, le trône de Dieu, il est stable. Il est stable parce qu'il est appuyé sur la justice. Et donc, vous pouvez compter sur la justice de Dieu pour qu'il vous fasse justice. Et ça, c'est important parce que ça détermine toute l'attitude qu'on aura, nous, par rapport à ceux qui ont fait du tort, etc. Dieu juge continuellement, à partir de son trône. Il est sur le trône, il règne, nous, on le chante, on le croit, etc. Et Satan, eh bien, Satan se présente à lui également. Hein, on le voit dans Job, chapitre 1, verset 6, mais il n'y a pas que dans Job qu'on voit cela, et où il est dit, un jour, les fils de Dieu, donc c'est les anges, hein, donc je les ai représentés à gauche avec Michel, qui est le chef des anges, et qui vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan, donc je l'ai présenté à droite, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Et donc Satan, c'est le prince de ce monde, il parcourt la terre, il se promène, il regarde ce qui se passe, etc. Et voilà ce qu'il dit de Job, qui était un homme juste devant le Seigneur, il obéissait au Seigneur. Il dit, il commence à l'accuser et à douter, à faire douter de sa probité, de sa façon d'être juste, Job. Il dit, est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection ? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, et voilà, il y a toujours un mais avec Satan. Mais, porte donc la main contre lui. Touche à ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. Vous voyez, le travail de Satan, c'est de vous accuser, de chercher les motivations profondes qu'il y a en vous. Alors, c'est vrai qu'il ne s'est pas trompé sur la femme de Job, qui a dit « maudit Dieu ». Donc, il n'était pas très bien entouré, Job, dans sa propre famille, ce qui arrive parfois aussi dans nos familles, parce que Dieu connaît seul les cœurs. Job, non, il n'était pas de cette nature-là. Il aimait Dieu pour Dieu. Il n'aimait pas Dieu pour les biens qu'il avait. C'est vrai que Dieu protégeait, Dieu nous protège, Dieu nous garde. Ceci étant, il peut nous arriver des choses, une maladie, un problème, voilà, parce qu'on est, notre corps n'est pas parfait, il n'est pas encore transfiguré, il n'est pas ressuscité de nos imperfections, ça sera le cas un jour, mais pas tout de suite. Donc effectivement, nous sommes, disons, soumis à certaines variations, certaines choses qui nous atteignent, aussi bien sur le plan physique que sur le plan psychique et même spirituel, de séduction, etc. Et Job, en fait, toute l'histoire de Job montre que non, ce que Satan a dit sur lui, c'est faux. Mais Satan essaie toujours, même s'il sait que c'est faux, il essaye de vous atteindre en vous accusant à tort devant Dieu. Et toute l'histoire de Job, elle est quand même assez longue, décrite dans la Bible, ça montre qu'effectivement, lui, il avait une intention profonde de servir Dieu pour Dieu, et pas pour lui, et pas pour les intérêts qu'il avait. Mais sa femme, pas du tout. Ses amis, c'était un petit peu tout, n'importe quoi, etc. Voilà, et donc ça a déstabilisé. Et il n'y a que les deux derniers chapitres, 41 et 42, et un petit peu le 43, où on voit que Job dit, « Seigneur, je parlais sans les comprendre de tes merveilles. » Je n'ai pas compris. Et Dieu était fâché contre ses amis. il dit, pardonne-leur aux amis, parce que là, il veut leur arriver des choses qui ne sont pas bien. Hein. Et c'est après que Job a pardonné à ses amis que Dieu l'a rétabli au double de tout ce qu'il avait. Donc vous voyez, Dieu juge, il est là, parce qu'il y a le mal, il faut séparer le mal du bien, juge les choses, juge nos situations, juge les situations de l'humanité en permanence, en permanence. C'est pas juste une fois par semaine, non, il est là pour juger les choses. Et quand on va le voir, eh bien, il nous entend. Et on peut être sûr qu'il va nous répondre. Alors la vengeance, ça aussi, le problème de la vengeance, tous ces termes, il ne faut pas se venger, tout ça, on pense que c'est humain. Mais non, c'est aussi divin. La vengeance s'adresse aussi à la qualité et à l'attribut de Dieu. Sauf que quand Dieu, qui est parfait, qui est bon, il n'y a pas de péché, il fait quelque chose, il ne le fait pas avec un sous-entendu, avec quelque chose de mauvais. Pour nous, il y a toujours du bien dans le mal. C'est parce qu'on a mangé, et on continue à manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans l'arbre de la connaissance, il y a toujours du bien. Sauf que le bien est poussé à fond comme idole. Mais c'est toujours du bien, parce que sinon, les gens ne feraient pas de mal. Parce que le mal, s'il n'y avait que le mal, ce serait trop voyant. Mais il y a toujours du bien et du mal. Donc la vengeance, c'est aussi un attribut de Dieu. Et je vais vous montrer comment. Caïn, lui, s'est vengé, juste pour expliquer ce que c'est que la vengeance. Caïn s'est vengé de son frère Abel. C'est le premier cas de meurtre qu'on a dans la Bible. Parce que Abel a obtenu la faveur de Dieu. Quand il y a eu deux sacrifices, Abel et Caïn, un sacrifice où la fumée est montée, celui d'Abel, et l'autre est descendu, parce que Dieu ne l'a pas approuvé, voilà, donc c'est le reflet de la fumée qui monte et l'autre qui reste au niveau du sol. Et Caïn, il a, dans son cœur, nourri une rancune contre son frère, parce que son sacrifice n'a pas été agréé par Dieu, n'a été accepté par Dieu. Il ne voulait pas se repentir. Parce qu'en fait, ce matin, c'est pas l'occasion d'analyser ce texte-là, mais il n'aurait pas dû faire le sacrifice qu'il a fait, il le savait. Il le savait. Mais il l'a fait quand même. Et ça, c'est souvent l'attribut de personnes qui sont rebelles, qui le font quand même s'ils savent qu'il ne faut pas le faire. Mais bon, ça, le Seigneur voit leur cœur. Et on voit que d'ailleurs, quand vous voyez la lignée de Caïn, ceux qui ont suivi Caïn, il y a Nimrod qui vient dans la lignée de Caïn. Et les bâtisseurs de la tour de Babel, qui sont la lignée de Caïn. Et les Caïnites, ceux qui adorent Caïn, aujourd'hui il y a encore des Caïnites sur la terre, hein, c'est des sectes, etc., ésotériques et tout ça. Ils prolongent, ils le voient comme un héros, etc. Parce que en fait, tout est inversé dans l'ésotérisme. Mais, vous voyez, c'est une lignée de rebelles. Et parce qu'il ne s'est pas repenti. Tout se passe à la repentance. Quelqu'un qui est dans une mauvaise voie, s'il se repent, il peut changer. Mais celui qui ne se repent pas, il va continuer, il est obligé de continuer dans sa rébellion. La vengeance divine, donc Dieu se venge aussi, hein, mais la vengeance divine, c'est lorsque Dieu agit contre les personnes qui ont fait du mal. Et ça, c'est l'attribut de Dieu. Dieu, c'est lui qui nous a créés. Et il peut très bien neutraliser quelqu'un qui fait du mal et puis valoriser quelqu'un qui fait du bien. Et il le fait dans sa justice, justement. Et c'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur la justice de Dieu. Et Dieu peut se venger. C'est-à-dire qu'il peut, effectivement, vous rendre justice en vous vengeant de ceux qui vous ont fait du tort. Je prends Nahum. Chapitre 1, verset 2, jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur, l'Éternel se venge de ses adversaires, il garde rancune à ses ennemis. La différence de la vengeance et de la rancune de Dieu, c'est qu'elle n'est pas affectée par le péché. Dieu n'a pas péché, on est bien d'accord. Bon. Donc lui peut se venger, c'est-à-dire peut prendre ses dispositions parce qu'il n'y a aucun brin de méchanceté dans sa vengeance. Elle est juste. et dans sa fureur et dans sa rancune. Parce qu'il dit non, il faut que justice soit faite. Et lui peut établir la justice véritable. Dans Romains chapitre 12, verset 19, il dit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution du Seigneur. » Hello ? Ça, c'est l'enseignement du Nouveau Testament qui montre bien que la vengeance, elle n'est pas exclue, c'est Dieu qui peut venger, mais nous, nous ne devons pas nous venger nous-mêmes. C'est pour ça que le sermon sur la montagne, qu'on a lu en partie le 21 juin, Jésus explique en disant « Si ton ennemi te frappe sur la joue droite, ben tends-lui la joue gauche. » Pourquoi ? C'est pas un enseignement fataliste, c'est pas un enseignement, qui est destructeur, enfin, je trouve pas le mot. Non, c'est parce que le Seigneur va vous venger si vous comptez sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire appel à la justice. Et je vais y venir, comment utiliser la justice que Dieu met à sa disposition et que souvent on n'utilise pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, parce qu'on ne sait pas comment ça marche, parce qu'on ne sait pas. On pense que c'est la fin des temps. Non, non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, il peut te venger de tes ennemis, de ceux qui t'ont fait du tort. Mais c'est Dieu qui va faire vengeance. Parce qu'il t'aime. Un des problèmes, donc je vais évoquer les problèmes du fait qu'on n'utilise pas la justice de Dieu, c'est que la plupart des personnes, et de plus en plus de chrétiens, ils vont chercher la limite du ciel et pas le centre. Je m'explique. Ils cherchent la limite. Ils ne veulent pas s'approcher du trône de Dieu, du centre de la présence de Dieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ? Parce que les chrétiens, ils veulent jouir un peu des deux royaumes, le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Effectivement, le royaume de ce monde, il y a des choses formidables. D'ailleurs, même les vacances sont là pour admirer la nature et tout ça. Il y a tout un tas de plaisirs du monde. Voilà. Mais il y a d'autres plaisirs, voilà, qui prennent la place de notre adoration de Dieu, de notre priorité, comme l'a dit le pasteur Oscar, le dimanche matin, voilà, on s'est mieux en robe de chambre, qu'on sirote un petit café, qu'on suive le culte. Enfin, voilà, la Covid a débloqué toute cette différence. Quand j'ai pris le pastorat, je voyais que les Africains étaient toujours sur le 31, avec beau costume, cravate, tout ça. Vous voyez, j'ai pas mis ma cravate ce matin. Souvent, je la mettais justement pour honorer cette tradition, qui est de dire, ben, on le fait pour le Seigneur. Voilà, on fait des belles chaussures, tout ça. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est l'intention. Après, ça se traduit différemment. Bon, ceux qui sont à la plage, ils mettent un truc de plage, tout ça. Bon, c'est pas le problème, mais c'est l'intention qu'on a d'honorer le Seigneur. Et il y a de plus en plus des chrétiens, mais qui sont poussés à vouloir profiter des deux royaumes. Ah, pourquoi pas, hein ? On a le Seigneur, oui, mais bon, il y a etc. Et on discute. Mais c'est une autre manière de dire que ces chrétiens sont tièdes. Et vous savez ce qui est dit dans la parole ? Des chrétiens tièdes, qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Vous savez ? Qu'est-ce que fait Jésus des chrétiens tièdes ? Il les vomit. Vous voyez, à la limite, il vaut mieux être froid, parce que vous pouvez être réveillé. Bien sûr, bouillant, c'est l'idéal. Mais tiède, non. Tiède, il n'y a rien à faire. Parce que vous jouissez des deux royaumes. Et hop, bon non, mais je suis bon chrétien, si ceci, cela, je suis toujours en train de me justifier, de sortir, d'être dans le déni. Non, 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 tu dis ça, mais non. Bref, tiède. Voilà. Il se place à la limite du ciel. Bon, c'est une image, hein, la limite du ciel. Alors, pour prendre l'exemple que j'aime bien, c'est le parapluie. Alors, j'ai pas de parapluie ici, mais vous voyez tous que c'est un parapluie. Hein. Le parapluie, je peux le tenir comme ça quand il pleut. Voilà. Mais je peux le tenir aussi comme ça. C'est-à-dire que le parapluie, il est là, la pluie, et là, je suis à la limite. je suis à la limite. Et qu'est-ce qui se passe à la limite si j'ai pas le parapluie là? C'est qu'il y a une partie qui est mouillée, l'autre partie qui est sèche. Et voilà. Donc, et c'est ça, les chrétiens qui sont à la limite du ciel. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, ils disent, ah là là, j'ai un pied dans le ciel, là, j'ai un pied dans le royaume de Dieu. Hein, et puis, si Jésus revient, waouh, il n'est pas juste derrière. Il va juste me prendre la peau du, hein, voilà, du derrière, là. Mais bon, je suis sauvé. Vous voyez, c'est l'image. Mais bon, c'est une image qui montre qu'effectivement, il y a des chrétiens qui jouent à ça. Et j'aime bien mon ami. Pardon ? Xavier. Xavier. J'aime bien discuter avec lui parce qu'il va souvent en Afrique. Et il dit c'est incroyable, hein, il y a la ferveur, on sent, etc. Alors qu'ici, en France, dans les églises, c'est de l'entre-soi. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'entre-soi. Voilà. On est bien ensemble, on est au chaud, voilà, maintenant on est au chaud, on est bien, on a ce qu'il faut, voilà, le gouvernement, l'État nous protège, on a la sécu, on a tout, voilà, c'est super, quoi. Vous savez ce qu'ils disent les Allemands, moi je suis en partie allemand, enfin d'origine, ils disent wie glücklich, des Français, ils disent wie glücklich Gott in Frankreich, c'est-à-dire Dieu est heureux en France, comme les Français. Ils disent c'est formidable. Ils n'aiment pas les Français, mais ils viennent en France parce que c'est super, c'est joli, c'est bien, c'est cool et tout. Donc on est poussé un peu en France à être de l'entre-soi, dans les églises, tout ça. Ils parlent de sauver des âmes, évangéliser. Oh là là, voilà. Ça, on verra ça après. Hein, on verra ça après. Donc voilà, c'est un peu comme si on tient ce parapluie et voilà, on est juste à la limite. On est juste à la limite et on se place dans cette limite du côté du ciel et on veut assurer le ticket d'entrée au ciel. Ça, c'est un peu les vierges sages, vierges folles, vous savez ce qui arrive hein, quand on joue à ça. Eh bien, je voudrais vous montrer un peu ce que c'est que d'être au centre, d'être dans le trône de Dieu. C'est parce que dans le trône de Dieu, quand vous allez vers le centre, c'est-à-dire que vous prenez un parapluie au centre, eh bien vous pouvez vous approcher de ce fameux trône de Dieu, dès maintenant, où Dieu exerce la justice. Le monde, donc, est représenté à l'extérieur du parapluie, là il y a le prince de ce monde. Et vous avez vu que Satan, il parcourt le monde, et puis il regarde, et puis il rapporte là-haut en disant « Ah, tu vois André, là, voilà ce qu'il a fait. » Alors il vous cherche, il vous pousse même à faire des fautes pour que vous puissiez faire des fautes, et puis dire à Dieu devant le trône, parce que lui, il vient de haut le trône. Hein. Et il dit « Tu vois André, là, ce qu'il a fait, etc. » Voilà. Et je vous expliquais dimanche dernier comment en 98, il y avait un gros cas qu'il a présenté, et voilà, il m'a accusé. Voilà. Donc le prince de ce monde, il est dans une décadence. Ce qu'il faut savoir, ceux qui connaissent un peu le monde de la physique, on appelle ça de l'entropie, c'est-à-dire que le monde se meurt. Quoi. Il a un commencement et puis il se meurt. Et donc il est dans la décadence, il est dans le chaos. Et en fait, il provoque tout ce qui dégrade. Satan, dans le monde, le prince de ce monde, c'est tout dégradant. Et vous le voyez, pour ceux qui vraiment sont en adoration de Satan, bon, c'est vraiment, ils forcent ceux qui sont sous leurs ordres à manger des excréments et machin comme ça pour pouvoir ensuite, après, tuer, etc., sans que leur conscience, c'est-à-dire qu'ils brûlent leur conscience, quoi. Du bien, voilà. Mais d'une manière générale, le monde est dans la dégradation des choses, amené vers le chaos. Alors que sous le parapluie, qui est à notre disposition aujourd'hui, eh bien, c'est la sainteté du royaume de Dieu. C'est tout à fait différent. La sainteté de Dieu, c'est l'absence de mal. C'est l'absence de tout ce qui est mauvais. C'est la sainteté de Dieu. Et ça édifie. Ça ne fait que vous édifier. C'est pour ça, plus vous vous rapprochez de Dieu et du trône, plus vous êtes édifié. Et c'est d'ailleurs un des rôles des ministères apostoliques, qui sont cités dans Ephésiens 4, ils doivent édifier. édifier le corps de Christ. Parce qu'ils sont les premiers à enseigner les chrétiens pour l'édification. L'édification, ça c'est le royaume de Dieu. Le chrétien devant le trône de Dieu, quand il vient devant le trône de Dieu, et je vous invite à aller vers le trône de Dieu, eh bien, c'est un chrétien qui est protégé par Dieu. Dans le troisième ciel, bon, c'est les anges, hein, tous les fils de Dieu dont on a parlé tout à l'heure. Le deuxième et le premier ciel, eh bien, c'est Satan et tous les démons, etc., qui sont dans la décadence. Donc, si vous êtes pas sous son influence, eh bien, vous êtes dans l'espérance. Vous êtes dans une espérance. C'est-à-dire que vous jouissez aujourd'hui de certaines choses, bon, pas complètement, parce que la mort va nous atteindre dans notre corps, mais on va jouir d'une espérance éternelle, d'une vie qu'on a déjà maintenant, quand on accepte Jésus, et qui va se prolonger dans la vie éternelle, il n'y a pas d'arrêt. Le trône de Dieu. Allez devant le trône de Dieu. Présentez-vous devant le trône de Dieu. Et vous verrez que votre vie chrétienne va changer. Devant le trône de la sainteté de Dieu, on est confondu. Je n'ai pas eu ce privilège d'être spirituellement devant le trône de Dieu, mais il y a des serviteurs qui ont pu avoir cette grâce. Et il y en a un, par exemple, Mamadou Karamboy, ceux qui le connaissent, qui nous a expliqué comment aussi il a eu ce privilège. Et ceux qui vraiment ont un privilège, comme les anges, comme Satan même qui va dans le trône de Dieu, ils disent tous une chose. Ils crient. Ils crient parce que devant le trône de Dieu, il y a tout qui se décompose, il y a tout qui s'arrache, parce que c'est tellement de gloire que vous ne pouvez pas le supporter. Et vous criez pour que ça s'arrête. Voilà. Ça, c'est une chose. La deuxième chose qui se passe devant le trône de Dieu, c'est que vous savez que vous êtes pécheur. Vous le savez. Il n'y a pas personne qui vous dit « Ah, t'es pécheur, t'as fait ceci, cela ». Vous le savez, c'est-à-dire une conscience de ce que vous êtes qui est pécheur. Et du coup, vous êtes dans une attitude effectivement de demande de pardon devant le trône de Dieu, etc. Et même un prophète qui était là, il a vu des chrétiens qui se jetaient dans l'abîme parce qu'ils ne pouvaient pas supporter le péché, parce qu'ils n'étaient pas prêts à se repentir, vous voyez. C'est pas Dieu qui les jetait, ils se jetaient eux-mêmes dans l'abîme, parce que la présence de Dieu est glorieuse. Vous voyez. Donc, vous voyez, quand on s'approche du trône de Dieu, il y a des choses qui se passent. Notre vie chrétienne change. On est transformé, alors ça c'est l'aspect positif, on est transformé dans sa présence, par sa sainteté. Et ça c'est quelque chose d'extraordinaire. La sainteté, vous savez, dans l'Évangile, dans l'Apocalypse, il dit « Saint, Saint, Saint et l'Éternel ». Saint, pourquoi trois fois? À chaque fois, trois fois, c'est-à-dire c'est la totalité de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Dieu est saint. Bien sûr, il est amour, il est saint, il est juste, mais la sainteté, c'est un attribut de Dieu. Et le problème des chrétiens, surtout religieux et légalistes, ils cherchent à être saints. Pour ceux qui connaissent un peu la littérature anglaise et qui ont étudié, comme c'est le cas de ma femme, c'est les frères de Plymouth, etc. Enfin, c'est des gens, des chrétiens évangéliques. Hein. J'ai le nom sur la langue, ça ne me revient pas. Eh bien, ils voulaient être saints, c'est-à-dire voulaient leurs enfants et tout ça. Donc, il assurait bien sûr les 10 commandements, mais en plus, il mettait d'autres commandements, un peu comme les juifs orthodoxes. Il mettait toute une bardée de trucs, et puis tous les jours, ils avaient une liste, et le soir, ils disaient tout ce qu'ils avaient mal fait. Elle fait ça, le matin à 7h30, j'ai mal répondu à ma femme, etc. Et il demandait pardon, etc. C'est-à-dire qu'il cherchait à être saint par eux-mêmes, par leur propre force. Ça part d'un bon sentiment, mais ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Vous voyez, on ne peut pas être saint par soi-même. On ne peut pas, par nos efforts, être saint. On ne peut pas, par nos efforts, être ce que Dieu veut que l'on soit parce qu'on est dans une attitude de pécheur. Donc on a besoin d'un sauveur, on a besoin d'un Messie, de Jésus, qui lui a tout accompli à la croix. Mais le légaliste, chrétien évangélique, je parle, hein, il veut apprendre à être saint. Donc il y a tout un tas de méthodes pour être saint. Voilà. Des méthodes. Le nom ne me revient pas, on reviendra tout à l'heure. D'ailleurs, les Quakers, qui sont partis d'Angleterre aux États-Unis, donc ceux dont je parle, eh bien. Pardon ? Non, c'est après Wesley. Bon. Et quand ils arrivaient là-bas, c'était les seuls dans tous les États-Unis qui avaient le droit de ne pas jurer sur la Bible dans les cours de justice parce qu'ils refusaient, parce qu'on savait qu'ils disaient la vérité. Vous voyez ? Ils étaient reconnus pour dire la vérité devant les cours de justice. Et parce que vous savez, on demande de jurer sur la Bible, je dis la vérité, toute la vérité, etc. Puis voilà, on ment derrière, on fait des parjures. Non, eux, on savait qu'ils disaient la vérité. Parce qu'ils avaient une colonne vertébrale qui était. Donc là, c'était bien. En cours de justice, c'était bien. Mais devant Dieu, ça ne marche pas. Devant Dieu, on est saint. Et ceux qui sont devant le trône de Dieu, ils savent tous qu'on est, pécheurs. La sainteté est acquise en étant en relation avec quelqu'un qui est saint. C'est par imprégnation qu'on devient saint. C'est pas par imitation. De faire les choses, de bien faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de bien faire les choses. Hein. Ça arrange beaucoup votre entourage. Si vous faites la vaisselle à votre femme et tout ça, bon, et si vous travaillez ensemble, c'est pas ça le problème. Ça, c'est de la morale. Enfin, la morale qui est pratique. Mais devant Dieu, on ne peut pas être saint par nos efforts. C'est par une relation. Plus on relationne avec Dieu qui est saint, plus on devient saint. Et on est imprégné de sa sainteté. On est absorbé par la sainteté. Un des problèmes, pourquoi on n'utilise pas la justice ? C'est parce qu'on a peur. On a peur car on n'est pas clair. C'est pour ça qu'il faut tout le temps utiliser la repentance. Parce que si on n'est pas clair, vous savez, c'est un peu comme quand on était petit. Votre petit frère, il vous a fait des crasses et tout ça. Et bah, vous n'osez pas dire aux parents parce que dire ah oui, mais ils vont peut-être se rappeler que moi j'ai fait ça. Donc vous pensez avoir une autre peine des parents. Donc du coup, vous vous taisez. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Et bah, c'est un peu comme ça, devant le trône de Dieu. Vous avez peur que si vous demandez la justice de ce qu'on vous a fait, bah Dieu va peut-être vous rappeler que vous aussi, vous devez demander, repentir de ce que vous avez fait à d'autres. Du coup, on ne veut pas aller au centre du parapluie, là, parce que, voilà, on se dit, bah peut-être que un effet boomerang, paf, ça va me revenir. Vous voyez ? Et c'est pour ça aussi que la notion de justice n'est pas appliquée comme il faudrait par les chrétiens. Mais quand on est clair devant Dieu, quand on est clair, quand à chaque fois qu'on est en face d'une vérité qu'on a fait, d'une réalité qu'on a fait, et qu'on le reconnaît, et qu'on demande pardon, Seigneur, pardon, oh, des fois, c'est pas un pardon qui dure 3 heures, hein, mais on se clarifie à chaque fois, eh bien, là, on n'a pas peur de la justice de Dieu pour nous rendre justice quand on lui demande d'être puni. Donc c'est la repentance qu'il faut utiliser. Alors il y a deux fonctions de la justice, hein, pour être clair. La première fonction, c'est punir le criminel hein, qui a commis le crime. Donc le mal est puni, le criminel est pardonné pour qu'il puisse continuer sa vie quand même, une fois qu'il a fait ses années de prison, etc. Il a purgé sa peine, voilà, la vie continue quand même. Bon. Alors des fois, il y a des peines... qui peuvent durer toute la vie, ça c'est autre chose. Donc il reste sous camisole pour pas qu'il continue à faire du mal à la société. Mais parfois c'est 1 an de prison, voilà, et puis après il repart, il y a du pardon. Il y a une notion de pardon dans la justice, parce que la loi disait, donc il y a une sentence qui est prévue, tant de mois de prison, et le juge décide, etc. Donc c'est punir le criminel, et la deuxième fonction, c'est restituer à la victime, et lui permettre d'être restauré et indemnisé. C'est très important. La victime, vous savez très bien que quand il y a un traumatisme, on pense aux victimes de ce trauma. Et donc la justice doit aussi exercer cette restitution. Et Dieu a introduit un accord. Et il faut bien comprendre l'accord judiciaire pour saisir l'issue d'un jugement. Dimanche dernier, j'ai pris l'exemple des tours jumelles en New York, hein, où la justice a passé et a décrété que les victimes de ce drame, ils auraient 3,6 millions de dollars en rétribution des dommages qui leur étaient causés. Mais il y avait quatre conditions à remplir. Il fallait rentrer dans le cadre, bien sûr, sinon tout le monde va réclamer les 3,6 millions de dollars, rentrer dans le cadre deal de la légibilité, donc il faut être éligible à ça, il faut le démontrer, il faut remplir les formes, il faut passer devant un jury qui va tester si ce que vous dites c'est vrai, ce qui vous est arrivé, etc. Et il faut attendre. Parce que le jury peut-être décide que vous ne rentrez pas complètement dans les cases, etc. Vous voyez, donc il y a quatre formes. Et là, avec Dieu, c'est pareil. On est devant une cour de justice, Dieu rend un jugement, et il y a une clause d'un accord judiciaire. Et dans cet accord, il est prévu qu'on vous rende sept fois au septuple. Alors pourquoi sept fois? Une fois, ça suffirait. On vous a volé 10 000 euros, on vous donne 10 000 euros. Non, parce que il n'y a pas que ce qu'on vous a volé, mais c'est votre honneur peut-être qui a été touché dans certains cas graves. C'est peut-être vous avez perdu une capacité psychologique de votre être, de votre identité, etc. Enfin, il y a beaucoup. Si quelqu'un vous a fait mal avec un couteau, ben vous avez encore les cicatrices, vous avez des choses, etc. Voilà. Donc Dieu prévoit sept fois. Vous rendez compte? Il ne faut pas se priver quand même de récupérer sept fois ce qu'on vous a fait, et c'est ce que la Bible propose. Et donc ça, c'est l'équité de Dieu et l'injustice. Voyez-vous, quand on vous fait du mal, en fait, vous avez eu un tort et vous êtes comme ça. Et Dieu, quand il juge, il vous remet comme ça. Il vous met de nouveau la balance, la justice de Dieu, pour que vous puissiez continuer à avancer. Et il vous donne cette foi pour compenser effectivement tout le tort qu'on vous a fait. Mais il y a des chrétiens qui restent comme ça.
Qui restent comme ça toute leur vie.
Oui. Ben ça, c'est des tristes chrétiens, et vous les voyez parce qu'ils ont de la rancune. Oh, on m'a fait ça, on m'a fait ça, on m'a fait ça. Hein, vous voyez. Il y a Michel, mon épouse, qui donnait des cours de culture biblique à l'école Notre-Dame de Mantes. Et tous les ans, elle faisait venir un monsieur juif, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est à Mantes, qui était dans les camps de concentration. Et il parlait aux élèves. Et ils ont dit, vous voyez, moi, j'ai pardonné à mes bourreaux. Et moi, j'ai une vie comblée, pleine. Mais j'ai un ami qui n'a jamais pardonné. Il est misérable, et toute sa vie est gâchée, tout, vous voyez, etc. Parce qu'il n'a pas parlé. Il est resté comme ça. Oui. Non, si vous demandez la justice de Dieu, il vous rééquilibre. Alors il y en a d'autres, des petits malins, qui veulent l'onction. Parce que Dieu, c'est une onction, il vous donne une onction pour guérir. Ils veulent l'onction sans avoir été accusé, sans rien. Ça, c'est aussi injuste. Non. Si vous avez été floué, Dieu va vous réparer. Mais ce n'est pas un jeu, hein, comme ça. Voilà. Mais Dieu va vous réparer et va vous donner déjà ce que vous avez perdu et six fois plus encore. Dans Ésaïe 59, verset 4, hein, il est dit « Personne ne fait appel à la justice. Personne ne plaide avec droiture. Il s'appuie sur le vide. » Et disent des faussetés, conçoivent le trouble et donnent naissance au crime. Le Seigneur, il est triste de voir que personne ne réclame la justice alors qu'il est là, pour nous rendre la justice. Et il faut le réclamer. Comme dimanche dernier, je voulais illustrer avec, avec la veuve et le juge unique. Toute la nuit, elle a cogné son truc à sa porte jusqu'à ce qu'il descende. Alors qu'il disait, mais non, demain, tu viens demain à 10h, je tiens la cour de justice. Non, non, elle a insisté. Et c'est ça qu'il faut faire auprès de Dieu. Il faut insister parce que Dieu attend à ce qu'on compte sur la justice. La justice contient le pardon, qui est nécessaire pour laisser la personne revivre, y compris dans la justice humaine. Et là, il y a un terme qu'on a eu du mal à traduire avec Michel. C'est en anglais, ça s'appelle accord, un contrat sous écrou. C'est-à-dire un écrou, vous serrez, il faut desserrer le contrat. Voilà. Et en français, c'est l'accord d'entiercement. Alors, c'est un peu plus complexe. C'est-à-dire des tiers. Alors, c'est quoi cet accord? En fait, ce que je vous disais, les tours jumelles, hein, c'est un accord qui est déposé. Alors, dans le monde du business, c'est pour ça que les Anglais utilisent beaucoup ça dans le business. Par exemple, un logiciel qui est déposé sous écrou, pour pas qu'il soit volé, enfin, le contrefait, etc. Donc, en fait, à la fin d'une cour de justice, d'un cas qui est traité, eh bien, il y a un accord dans lequel il y a dit « tu peux bénéficier de ça, mais on va le donner à un tiers ». En France, c'est souvent les notaires hein, qui gardent soit les testaments, soit les accords, etc. Et lui, il est garant de les 3,6 millions de dollars. On ne va pas les donner comme ça à n'importe qui. Il est garant de vérifier que vous rentrez dans l'accord. Et donc ça, c'est très important en justice de savoir qu'il y a un accord d'entiercement. Et en Dieu, avec Dieu, il y a des accords d'entiercement. Et le problème, c'est qu'on ne les utilise pas. Et il y a des accords qui peuvent remonter à 2-3 générations avant nous. Hein. Vous voyez, si par exemple votre grand-père a été maltraité par quelqu'un, et que Dieu a rendu justice, et qu'il a un accord, par exemple, je ne sais pas, on lui a volé 1 million de dollars, 1 million d'euros par exemple, 1 million d'euros, bah, votre vie serait peut-être différente aujourd'hui si vous aviez le 1 million d'euros, hein, en vérité. Ouais. Donc ça vaut le coup déjà de le réclamer. Et il est encore valable. Au bout de plusieurs générations, vous pouvez encore le récupérer. Voyez, mais le Seigneur, il dit, mais personne ne le prend. Personne ne le cherche. Voilà. Donc il faut savoir que là, c'est à disposition. Dieu a prévu cet accord pour vous. Je rappelle la définition de la justice. C'est un processus légal qui permet d'appliquer la loi. Parce qu'il y a une loi, Dieu a donné une loi à son peuple, et la loi n'a pas changé. Le Nouveau Testament n'abroge pas la loi. Jésus, il a accompli la loi, et même l'esprit de la loi. Mais la loi est toujours valable. Donc c'est un processus légal qui permet d'appliquer la loi et de garder le mal à distance, tout en permettant de bénéficier de cet accord judiciaire conclu par le juge pour le dédommagement. Il y a une loi dans le ciel, mes amis. Il y a une loi dans le ciel où le mal est reconnu, parce que Dieu, il haït le mal, il ne veut pas le mal. Et il a dit, quand il a mis les premiers hommes dans le jardin, il a dit, ne mange pas de cet arbre où il y a le mal, bien et mal. Il voulait que l'être humain ne bénéficie que du bien que lui a créé. Dans Malachie, chapitre 3, verset 16, il dit, on verra la différence, un jour on verra la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne le connaissent pas. Hello? Est-ce que vous voyez, quand vous allez dans un supermarché, celui-là il connaît Dieu, celui-là il ne connaît pas Dieu. Vous le regardez juste. Ça, vous discernez ça? Non? Parce que ça n'existe pas beaucoup. Malheureusement. Malheureusement. Il faudrait qu'on voit sur nous qu'on connaisse Dieu. Vous voyez, ça c'est l'objectif à atteindre quand on va vers le trône de Dieu. Parce que quand vous êtes devant le trône de Dieu, c'est-à-dire le parapluie au centre, eh bien, vous êtes tellement transformé que vous rayonnez de la gloire de Dieu. Moïse, c'était le cas. Tellement il rayonnait, il devait mettre une voilette parce qu'il irradiait de la présence de Dieu. Les chrétiens veulent être à la limite du ciel au lieu d'aller devant le trône de Dieu, comme je vous le disais, et d'être au centre du ciel. Rappelez-vous le peuple qui était dans le désert dans l'Ancien Testament. Il a été gardé de la maladie, de la pénurie de nourriture, de toutes sortes de maladies, etc. Ils n'avaient rien, 40 ans. Pourquoi ? Parce que la présence de Dieu était là. Parce qu'ils avaient un tabernacle, et là, ils ne se déplaçaient que quand le Seigneur se déplaçait, il y avait la présence, le feu, la colonne de feu, qui était là et qui les conduisait. Quand la présence de Dieu est là, eh bien, mes amis, ça change. Et c'est formidable. Depuis quand, c'est une question, n'avez-vous pas vu la crainte se manifester quand vous êtes entré dans votre bureau, par exemple, si vous travaillez dans un bureau ou ailleurs? Est-ce que vous avez déjà vu que quand vous rentrez, il y a la crainte de Dieu? Non? Ça vous dit rien, ça? Je sais que Michel était petite, bon, elle est née avec une Bible sous le bras, donc elle a vu les serviteurs de Dieu, et puis la fin du réveil des assemblées de Dieu. Il disait, quand David Wilkerson est rentré sur scène, waouh, vous savez, Wilkerson qui a écrit Croix et le poignard et tout ça, il y avait la crainte de Dieu. On sentait la présence de Dieu. Et c'est ça qu'il faut qu'on se passe. C'est ça notre objectif. C'est que quand on va quelque part, eh bien, il y a la présence de Dieu avec nous. La présence tellement forte que, en fait, ça marque les gens et ça parle aux gens. Moi, c'est vrai que j'ai eu plusieurs fois des expériences et je suis allé au travail et je me tenais comme ça. Je me tenais comme ça, c'est une réunion de direction. Une réunion comme ça, parce que je flottais à un mètre du sol et je les voyais comme ça. Je dis, mince, ils me voient. Et je me tenais au truc. Bon, c'était spirituel. Mais voilà, c'était la présence de Dieu, la crainte de Dieu qui m'envahissait, quoi, voilà. Et je m'accrochais, mais bon, physiquement, ils n'ont rien vu, mais j'étais là, c'était pas possible, quoi. Et ça durait pendant une heure, quoi, toute la durée de la réunion de direction. Quand la présence de Dieu est avec nous, il suffit d'entrer dans un endroit pour que les personnes, y compris les dirigeants, tremblent devant la présence de Dieu. Alors, comment évangéliser? Ça touche à l'aspect d'évangélisation. Eh bien, il y a quelqu'un qu'on peut vraiment prendre comme exemple, c'est François d'Assise. Il y en a qui connaissent François d'Assise? Moi, j'étais à côté de Rome, c'est extraordinaire de visiter cet endroit. Il a vécu au XIIe siècle, François d'Assise. Et c'était un homme qui cherchait le trône de Dieu, la présence de Dieu. Et il disait, évangéliser un village pendant toute une semaine. Et si besoin, utiliser des paroles. Lui, il évangélisait sans parole. Vous marchez dans les rues, un peu comme Pierre, et les gens sont frappés. Alors, ils se convertissent pas, ça, c'est pas votre problème, c'est leur problème. Mais vous manifestez la présence de Dieu, parce que le royaume est avec vous, il est en vous, il est avec vous, et il manifeste la puissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler, on utilise trop de paroles, nous. Parce qu'on remplace les paroles, on remplace la présence de Dieu par nos paroles. Mais la seule présence que nous sommes, quand nous sommes dans ces rencontres avec Dieu, eh bien, et c'est un des objectifs de la maison de prière, hein, je vous le cache pas, c'est d'aller vers cet objectif. Que la présence de Dieu est tellement forte dans cet endroit, et il le transfère à tous ceux qui vont venir ce moment pour qu'ils puissent expérimenter ça. Pareil avec Martin de Tours. Moi, je suis dans une ville qui s'appelle Saint-Martin-la-Garenne. Il y a un club ou une association de Saint-Martinois, parce que c'est le nom le plus connu en France des villages. Je ne sais pas combien de villages de Saint-Martin. Voilà. Ils ont fait une fête il n'y a pas longtemps. Toutes les villages de Saint-Martin. Pourquoi? Parce que Martin de Tours, il avait un tel impact. Quand il venait, il y a des miracles qui se produisaient, il y a des prodiges qui se produisaient, etc. Et lui, c'était un Romain qui s'était converti, qui était en Gaule, à Tours. Et un jour, il a eu une convocation de Charles Quint. Charles Quint, c'était à l'époque l'empereur de toute l'Europe, hein. L'empereur romain germanique, donc de toute l'Europe. Et Il a été, parce qu'il n'allait jamais dans les rencontres officielles, il était toujours avec le peuple et tout ça. Et il s'est déplacé en Cologne, à Cologne, il est allé là-bas. Et il s'est passé la scène suivante. C'est raconté par des inconvertis, hein, c'est pas des chrétiens. Je prends des sources pour être sûr que ce soit pas dévié. Et à ce moment-là, à la fin du repas, il y avait une habitude qui était que le roi, l'empereur, il prend sa coupe avec du vin et il le donne à son hôte pour que l'hôte lui redonne. Voilà, pour qu'il soit honoré par l'hôte. Et donc il a fait ça avec Martin de Tours, il a donné ça à l'hôte. Et Martin de Tours, au lieu de donner à l'empereur, il a donné à son voisin, qui était un collègue à lui, qui était un prêtre catholique. Et il paraît qu'on entendait les mouches voler dans toute la cour. On entendait les mouches voler parce qu'il savait qu'il allait lui couper la tête. C'était la règle. Vous ne faisiez pas ça, vous coupez la tête. Eh bien, l'empereur ne lui a pas coupé la tête. Il l'a respecté. Parce qu'il voyait un homme de Dieu. Et il lui posait des questions pour gérer son royaume. Ça, c'est une manifestation de la présence de Dieu. Moi, j'ai connu John Wimber, vous voyez, il est là. John Wimber. J'ai vu des choses comme ça. Il y avait un chef de gang, avec tout un tas de gangs, je sais pas, une vingtaine ou une trentaine, qui sont venus pour faire du cirque, pour faire le chaos dans l'assemblée, qui était là, de milliers de personnes, etc. Et John Wimber a dit à un chrétien qui était derrière lui, pose-lui la main comme ça. Il pose la main, paf! Le gars, il saute en l'air, il est électrisé, tout ça. Il tombe par terre, il accepte le Seigneur. La puissance de Dieu! Et imaginez, bon, bah, tout le gang, il s'est converti, voilà, la manifestation de la puissance de Dieu. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de paroles. Il suffit de la puissance, de la présence de Dieu. Et ça, j'ai vu. Il nous disait qu'en Afrique du Sud, ils avaient tellement de résurrection des morts qu'ils demandaient au Seigneur pour qui on doit prier, parce que un petit pépé de 98 ans, peut-être qu'il veut quand même s'en aller. Bon, en fait, ils ressuscitaient tous, quoi. Quand la présence de Dieu est là, voilà, c'est ça qu'on cherche. Mais elle est disponible, mes amis, devant le trône de Dieu. Mais nous utilisons tout le temps des paroles, pour remplacer cette présence. Non. Cherchons la présence de Dieu et, si besoin est, utilisons les paroles, mais c'est beaucoup puissant de laisser le Seigneur agir. Dieu sait exactement ce qui vous arrive et il attend que justice soit faite, y compris sur 3-4 générations. Et là, je n'ai pas le temps, vu l'heure, de développer ça. Les bénédictions passent les générations et vous pouvez récupérer un contrat qui a été jugé en faveur de vos ancêtres, etc., que vous pouvez récupérer, il vous attend et il faut le prendre. C'est peut-être un accord scellé et personne ne l'a réclamé. Et vous pouvez bénéficier de cet accord. Voilà. Je voudrais terminer en disant, vous dites, ce qui m'est arrivé n'est pas juste. Parce qu'il vous est arrivé quelque chose, moi aussi, plusieurs fois, hein, il y a un tas de cas qui me sont arrivés, qui ne sont pas justes, je sais que ce n'est pas juste. Tout ce que les gens disent, c'est du mensonge. Mais voilà, je me situe parce que souvent, quand vous êtes attaqué comme ça, c'est encore pire parce que vous dites un truc et les gens continuent encore. Bon. Vous connaissez ça. Eh bien, vous dites, ce qui m'est arrivé n'est pas juste. Eh bien, sachez que vous pouvez demander à Dieu de vous rendre justice. Mais demandez-le. Faites-le maintenant. Et vous verrez que Dieu va vous donner ce que vous demandez, et de vous restituer ce que Satan vous a donné, jusqu'à sept fois. Voilà, je vous invite à la prière, et pour ceux qui veulent que je prie pour eux, simplement, tout le monde ferme les yeux, vous levez la main, et je vais prier spécifiquement pour que Dieu vous aide à rentrer dans cette dimension de demander justice. Vous le faites chez vous, tranquillement, dans votre chambre et tout ça. Et le Seigneur va vous conduire, mais vous allez voir que c'est puissant. Amen. Voilà. Seigneur, je te remets tous ces bien-aimés qui ont été privés, Seigneur, de ce que l'ennemi leur a volé, d'une manière ou d'une autre. Et Seigneur, je ne voudrais pas qu'ils restent comme ça penchés de travers, mais qu'ils puissent rester dans l'équité, te servir, continuer à marcher, Seigneur, dans ta présence, et que, Seigneur, ils puissent réclamer justice auprès de toi. Parce que toi, tu veux les venger. Toi, tu veux leur redonner ce qui leur a été volé. Parce que tu es un Dieu juste. Et parce que tu aimes tes enfants, tes bien-aimés. Et Seigneur, je te prie pour eux, afin que tu les conduises à réclamer ce qui leur est dû, Seigneur. À réclamer, comme la veuve l'a fait. Elle ne s'est pas arrêtée. Et c'est le juge qui a cédé et lui a donné et rendu justice. Seigneur, je te prie pour que ton Église puisse être bâtie sur ces principes de justice et d'équité devant ton trône. Et Seigneur, que nous n'attendions pas ton retour. Bien sûr, le jugement sera fait. Mais Seigneur, dès maintenant, que nous puissions vivre. Mais en même temps, nous soyons prêts à payer le prix. Le prix qui est de s'approcher de ton trône, du trône de grâce, du trône où effectivement il y a besoin de repentance pour chacun de nous parce que nous sommes pécheurs. Et Seigneur, que cette attitude de repentance puisse nous habiter pour que ce ne soit pas difficile pour nous, mais que nous puissions sincèrement être clairs tout le temps devant toi et bénéficier de cette justice, de tous ces accords que tu nous donnes, Seigneur, par rapport au passé. Seigneur, je te remercie pour ce que tu l'as fait pour cette Église et que maintenant, nous pouvons bénéficier, Seigneur, d'un retour de la vision, d'un retour de la maison de prière, d'un retour de toutes ces choses, Seigneur. Et je crois que tu vas établir un phare ici pour toute cette région et que cette chapelle de prière, ça va être ta présence qui sera tellement forte que tous ceux qui vont rentrer, ils seront frappés de sa présence. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Je te rends grâce au nom de Jésus. Amen. Amen.